Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tsugi. Tsugi Radio. Tsugi Radio. Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
Elle refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique. Pour son retour à la chanson, Olivia Ruiz claque les talons et redresse le menton comme jamais sur une fusion pop-reggaeton-cumbia assez irrésistible. Retour à la chanson, mais l'a-t-elle vraiment délaissée ? Pas si sûr. À écouter cet album, qui vient après deux romans, plusieurs spectacles, dont la comédie musicale Bouche cousue, on a la sensation qu'Olivia Ruiz pétrit la même matière. Des histoires de femmes se mêlent à l'exploration de celle de sa famille et de ses grands-parents ayant fui l'Espagne franquiste. Comme si le travail mémoriel était devenu un peu la pierre angulaire de son propos artistique. Si l'on retrouve les cordes pincées de la guitare ou du dulcimer qui lui sont chers, sur la réplique, les basses vrombissent sur des kicks profonds et rappellent que la musicienne aime autant la techno que la chanson française. Car pour elle, la musique passe toujours par le corps. En 2016, Olivia Ruiz était parfois la seule femme sur les affiches. Cela va un petit peu mieux aujourd'hui, mais le combat pour la place des femmes dans la musique est celui contre les violences sexistes et sexuelles est en ce début d'année plus que jamais d'actualité. C'est une semaine historique pour les droits des femmes, avec lundi l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG, quelques jours à peine avant le 8 mars. Sur son album, Olivia Ruiz dédie un morceau à Nadia, morte à 61 ans sous les coups de son ex-conjoint. Tu danses sur le player de la Tsugi Radio, Olivia Ruiz, invitée aujourd'hui de Place des Fêtes.
Thank you. tu danses pour moi. Tu danses, tu danses pour moi.
Bonjour Olivia Ruiz.
Et bonjour Antoine.
Je suis bien content que tu sois dans notre petite cabane de la Villette.
Moi aussi, c'est comme si je rentre à la maison un peu hein, quand j'arrive chez Tsugi.
Pour parler de cet album, La Réplique, qui vient tout juste de sortir. C'est vrai qu'il y a des chansons plus légères, plus enlevées sur ce disque. Et c'est vrai que normalement, quand on commence une émission de radio, on commence avec des choses plus légères, plus enlevées. Mais
en
cette chanson, elle a une place particulière sur le disque. Cette histoire que tu as écrite, invitée par une autrice à écrire sur un certain nombre de femmes qui sont décédées suite à des violences conjugales. Mm-hmm. Elle a été facile à écrire, cette chanson, Olivia ?
Alors oui, en fait. Parfois ça arrive qu'une chanson soit une fulgurance comme ça. Alors le refrain, la mélodie du refrain et même le « tu danses » existait déjà. C'était une chanson dans laquelle j'évoquais ma maman au début. Et puis, voir mon fils danser, s'éclater, vachement se libérer avec le corps, me faisait penser qu'elle allait finir par lui être dédiée. Et Nadia est entrée dans ma vie, grâce à Sarah Baruc. Et effectivement, elle s'en est emparée, j'ai envie de te dire, de cette chanson. Il y a eu quelque chose de quand on a repris... Après cette rencontre, la chanson dont j'avais posé juste le refrain, il était évident qu'elle était pour Nadia, parce que sa fille racontait sur l'enregistrement que quand elle était petite, sa maman venait la chercher à l'école pour la faire déjeuner, et elle partait dans sa chambre et elle voyait sa maman toujours se mettre de la musique. Elle disait ça avec beaucoup de tendresse en se moquant parce qu'elle écoutait de vieilles chansons un peu kitsch mais qu'on a tous dans l'oreille. Et elle dansait là-dessus et du coup sa fille voyait bien qu'il s'agissait d'un exutoire à une forme de dépression, d'après ce que j'ai compris, de sa maman et à quel point la danse dans ces moments-là semblait la rendre vivante et l'apaiser. Donc voilà.
Toi, la danse, c'est quelque chose qui te rend vivante aussi. On le voit notamment dans le clip de La Réplique, le premier single qui est sorti en fin d'année. Et puis la danse, tu l'as aussi développée ces dernières années avec notamment le chorégraphe Jean-Claude Galota, avec lequel tu as collaboré.
Ouais.
Est-ce que ça a changé ton rapport à la musique, à la chanson, ces expériences sur scène avec les spectacles au Bouffe du Nord, la comédie musicale, les créations avec Galota?
Oui, je crois. Enfin, en tout cas, ça a changé mon rapport au corps. Le rapport que je peux avoir à mon propre corps, assez. Qui ressemble souvent à tout et son contraire. Et c'est vrai que ce travail avec des danseurs de longue haleine, post-accouchement, cette façon qu'ils ont de tout dédramatiser quand c'est lié au corps, ça se touche de partout. Dès que tu dis j'ai mal là, t'as deux mains qui viennent se poser. Et tu te rends compte au bout de quelques semaines que toi-même, dès que tu entends quelqu'un évoquer une souffrance, ta main va. Il y a quelque chose de l'ordre du partage. Ça, je connais bien en tournée, pour le coup, quand je passe des mois avec mes 15 gars dans le bus. Mais là, il y a quelque chose de. Qui redonne l'aspect sacré, un petit peu, au corps. Par la dédramatisation justement du rapport qu'on entretient avec lui, ce qui est presque un non-sens et pourtant que moi j'ai ressenti comme ça.
Il y a aussi eu ces deux romans qui ont trouvé un large écho auprès du public. Mmh. Les gens se sont appropriés, c'est fou. Cette histoire, votre histoire à toi et à ta famille que tu racontes et ce retour à la forme chanson, finalement, après l'écriture de romans, la création d'un spectacle, est-ce que c'était si évident que ça? Parce que la chanson, elle est forcément un peu formatée, il faut que ça rime, il faut qu'il y ait des refrains, c'est pas le même rapport à la langue.
Rien à voir, c'est vrai. Alors, ça a été difficile à un moment, celui de la relecture. Parce que figure-toi que je tape mes textes, en fait. Je les relis parce que je les envoie à la maison de disques pour le livret que tu as devant toi. Et là, je me dis, mon Dieu, ils disent rien, ces textes. Et rien là-dedans, mais je me dis, il faut que je les refasse. Quelle est la solution pour les rebosser? Et quand je commence à rentrer en bad comme ça, là, il faut que je prenne un regard extérieur, objectif, si possible très critique. Comme ça, je peux acquérir quelques certitudes qui me manquent. Et donc, j'ai fait écouter à 2-3 personnes de mon entourage professionnel. Et à chaque fois, la chose qui revenait le plus, c'était « Waouh, l'écriture, c'est vraiment affiné, plus percutante, va plus à l'essentiel, tu dis beaucoup plus de choses. » Là, je t'avoue que j'étais assez perplexe, jusqu'à ce que, avec un peu de recul, je me dise « Bah bien sûr, je me suis habituée à m'étaler, je me suis habituée à raconter des choses dans les moindres détails, poser des situations qui durent, qui... » Et en fait, j'ai perdu l'habitude de l'autre format, qui était pourtant le format de ma vie, jusqu'à pas si longtemps. Donc voilà, un truc où je me suis dit, tu pourras plus juger tes textes maintenant. Parce que mon cerveau, j'ai l'impression qu'il est vraiment resté bloqué sur le format roman. Donc je laisserai d'autres juger à ma place, c'est définitif.
Mais c'est fou que ta première réaction en lisant ces textes soit de dire, ils disent rien, parce que il y a quand même des textes, bon, tu danses évidemment, mais sans faire de toi une chanteuse engagée, tu dis des choses dans cet album, tu prends
mais
la parole.
Mais forcément moins que quand j'envoie 400 pages à mes éditrices, même si elles m'en dégagent la moitié.
pour toi, c'était important justement d'aller sur ces terrains-là, sur tu danses, sur ce que tu racontes sur l'amour, sur les hommes. Il y a des choses très frontales et il y a des choses aussi très... ne prends pas mal ce que je vais dire, mais il y a une parole de femme forte. Et ça, c'est peut-être encore plus qu'avant, encore plus que la femme chocolat. Bah tu le sens, ça?
Bah je grandis, donc je vieillis.
Tu es maman.
Donc je suis maman. Et puis je prends, plus on vieillit, plus on prend possession de sa vie, de son être. Donc je pense qu'il y a, un petit peu de ça. Mais ensuite, non, je me suis pas dit, tiens, je vais écrire sur un féminicide et je vais écrire sur, les gens différents, c'est toujours chez moi quelque chose de très spontané. Alors après, je retravaille beaucoup par contre, mais je, contrairement au livre où je m'impose un cadre, je fais des plans, jamais je me jette comme ça en me disant j'y vais, on verra bien ce qui sort, jamais. Avec les chansons, c'est précisément l'inverse. Au départ, je laisse venir, je laisse le cœur parler. Et ensuite, j'affine les contours. Mais c'est vrai que j'ai jamais réussi à me dire, tiens, je vais écrire là-dessus. Et au contraire, c'est même pire. C'est que, par exemple, quand la Pachamama me vient, je me dis, ah, punaise, non, je vais pas faire une chanson écolo. C'est casse-gueule au possible, pas moi. Ça va pas.
Tu n'es pas trio.
Non, mais tu vois, ni tous les autres, parce que plein de gens l'ont fait, en plus. Et puis finalement, la forme l'a emporté sur le fond. J'étais tellement excitée par la forme que j'avais trouvée, cinématographique en l'occurrence, d'un monstre qui vient nous bouffer, ni plus ni moins, que c'était plus une chanson écolo. C'était autre chose. C'était un film catastrophe.
Mais... Et puis c'est aussi alors il y a le sel qui est vraiment dédié à ton fils, mais la Pachamama, c'est aussi un lien avec ton fils. C'est une histoire que tu lui racontes.
Absolument. C'est né de ça. C'est né d'une histoire improvisée. Puisque nous improvisons des histoires quotidiennes. Voilà.
Il y a de la chance.
Et c'est rigolo. Même nous, parce que du coup, ça fait un petit travail aussi assez intéressant. Bon, je te dis pas que t'as toujours envie à 20h30 d'improviser après une longue journée, mais du coup, tu te fais violence et ça te. Ma mère m'a grondé il y a pas longtemps. Elle me dit, tu te rends compte que si tu fais 8 fois 365, bah, tu trouves le nombre d'histoires que vous lui avez racontées si t'avais tout enregistré. Et ça, je m'en veux encore parce que je me dis, voilà, j'ai quand même écrit la commode au tiroir de couleurs. Je me suis servi de ma propre frustration de n'avoir aucune information sur ma propre famille pour créer ce personnage qui en obtient. Et maintenant, je suis même pas fichue, moi, de faire de la matière avec tout ce que je fais pour mon fils et à mon tour de remplir la commode dont j'ai rêvé et que je n'ai jamais eue. Donc voilà.
Dans cette commode que tu as ouverte dans ce livre, tu as aussi renoué avec la langue, avec l'espagnol. Mmh. Et là, sur l'album La Réplique, il y a de l'espagnol dans presque toutes les chansons, même des fois un seul mot, des fois le refrain comme dans La Réplique. C'était une évidence, ça, comme tu t'es approprié cette histoire familiale, que t'es allé déterrer des secrets, enfin, des noms, etc.
J'ai du boulot, hein, j'ai pas déterré grand chose pour l'instant. J'ai deux fourmis, quoi. Et il doit y avoir un troupeau d'éléphants à découvrir.
Et l'espagnol, la langue, elle te permet, elle t'aide à ça, elle t'aide à reconnecter avec cette part de ton identité.
Probablement. Et elle est intéressante aussi purement musicalement, ouais. Parce qu'elle change complètement, les rondeurs sont pas du tout les mêmes qu'en français. Mais je crois qu'avant, je m'empêchais un peu parfois d'écrire en espagnol parce que je me sentais pas légitime. Et que probablement ça c'est encore un cadeau familial, mais qui ne m'appartient pas, ce sentiment d'illégitimité. Et cette fois, ça y est, tous les Espagnols de ma vie, de naissance, sont partis sous d'autres cieux. Et je me suis dit, si ça vient en espagnol, cette fois, les fautes, on s'en fiche, j'assumerai. Parce que c'est pas ça le plus important pour moi, ici et maintenant. Je suis tout à fait capable d'assumer une faute. Je suis moins capable de me dire j'ai renoncé à un élan qui pourtant me rapprochait de moi ou en tout cas de mes racines.
Y a peut-être, pour sortir de ton histoire personnelle, familiale aussi, quelque chose qui s'est passé depuis ton dernier album sur la scène pop mondiale, c'est qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Rosalía, qui est devenue une star mondiale, qu'on aime tous et toutes, et qui a remis l'espagnol sur une, c'est une star mondiale qui chante en espagnol et il y en a pas tant que ça.
Il y a une autre
jeune femme qui joue à Paris début avril qui s'appelle Anna Tijoux, qui est exceptionnelle, qui est formidable.
Il y en a tellement, en fait, effectivement. Enfin, cette langue quand même un peu parlée dans le monde, on peut se le dire
légèrement.
Voilà, prend la place qu'elle devrait avoir, mais bon, moi j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. De la Shakira à Jennifer Lopez, en passant par Carole G, j'ai l'impression que y a un truc avec Rosalía où effectivement, comme une espèce de réveil de notre côté du monde, en tout cas, alors que cette musique-là, le reggaeton, la cumbia, sont d'une richesse infinie. Et des quantiques, voilà. Plein de gens ont mis et ces rythmes et cette langue au goût du jour depuis 20 ans, voire plus. Mais c'est vrai que il y en a une quand même là qui arrive et qui est une star, quoi. Une vraie star. Et moi, quand je dis star, je dis pas juste une showgirl incroyable. Et une songwriter et productrice.
Elle met tout le monde d'accord. Hein, quand même. C'est exceptionnel.
À Bercy, c'était fou. Mais pas que. C'est quelqu'un qui a une authenticité. C'est pas pour rien que c'est elle qui nous touche et pas une autre. Et qui a... Elle est vraiment... j'ai l'impression, moi, de qu'on est un peu dans le même genre de démarche. Son rapport au flamenco, aux origines, le fait, elle aussi, qu'elle était extrêmement controversée... à cause de son parcours atypique, ce passage du flamenco hyper traditionnel à la pop et à quelque chose qui se joue beaucoup des codes et notamment avec un discours inverse à cette musique qui est son essence même et qu'elle chérit toujours. Enfin, ce personnage est vraiment passionnant.
Il y a un personnage, un nouveau masque d'Olivia Ruiz qui est apparu avec La Réplique et ce clip incroyable où tu vas chercher aussi le flamenco dans la danse. Et puis ce single qui a mis un peu tout le monde d'accord quand il est sorti, s'est dit « Waouh, Olivia, là, ça va défoncer ». Et c'est le cas, évidemment, on va écouter La Réplique sur Tsugi Radio dans Place des Fêtes, c'est Olivia Ruiz.
J'aime te surprendre, te sentir dérouté. Je m'amuse à tout fendre quand tu te mets à douter. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon centre de son dessin. Mon instinct est mon phare, mon labeur contrôle. Les divagations de mes pensées, je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser. Ça part du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique. Celle que personne ne peut attraper, ni tenter d'emprisonner, sans que je réplique, que je réplique, que je réplique. Vale, ahora te escucho. Pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho. Pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás. J'aime me suspendre au fil de tes pensées. Je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Mon flair et mon phare, mon instinct presque sorcier. Ma volonté peut effaroucher. Je déjoue le hasard et je cherche comment le provoquer. Ça part du ventre et du bassin. Ça libère mon centre de son destin.
Ejército atrás.
J'adore. on se pose la question quand même, parce que c'est vrai que ce single, il est... explosif, incandescent, un peu inattendu aussi pour les gens qui étaient là au début d'Olivia Ruiz. Mmh. Vous avez hésité à prendre la parole avec celui-là alors que non, c'était une évidence pour toi?
Ouais, vraiment, direct. Ouais. C'était non négociable.
Parce que qu'est-ce
après
que tu
on a négocié pour le deuxième extrait à sortir là. Bon, j'étais vraiment tellement faible et ils avaient tellement raison en plus. Ouais.
Puisqu'aujourd'hui
le 7, voilà, se balade bien en radio. Et ouais, la réplique, c'était évident. C'est ce que j'avais envie de dire à ce moment-là.
Parce que c'était aussi quelque chose que tu avais envie de montrer musicalement, ce parcours que tu as fait avec quatre garçons qui t'ont entraîné dans leur studio, dans leur caverne d'Ali Baba avec leurs machines. Ouais. C'était aussi ça que tu voulais affirmer en sortant ce titre-là en premier?
J'étais plutôt sur le fond que sur la musique.
Sur le texte.
Ouais, j'étais vraiment plus sur les mots. J'ai plus réfléchi comme ça, puisque de toute façon, bah voilà, comme les enfants, on les aime tous pareil finalement. Ces morceaux et musicalement et en termes de mots. Donc j'aurais très bien pu dire allez, on y va sur la Pachamama, on fait le fameux single zéro comme on faisait à l'époque, et parce que celui-là en termes de son. Voilà, aurait pu me faire réfléchir comme ça, mais non, j'avais surtout envie de dire, allez là. Allez les filles, on est des bombes. N'oublions pas de nous le rappeler entre nous.
Donc ces garçons, on va les citer. Ils s'appellent Jonathan Carmby, Nino Vella, Vincha et Kao, qui ont réalisé la réplique.
Alors il y a Marlin aussi. Ruiz,
Marlin.
Voilà. Jonathan Carmby, c'est lui qui avait fait le premier Benjamin Clémentine. Donc on est allé, je suis allée à Londres le rejoindre dans son mythique studio Rack. Et puis ensuite, voilà, il y a Kao, Kao Nefi, de son nom complet, qui fait partie de mes grandes rencontres musicales de ce disque, parce que c'est un tout jeune garçon, et qui, en quatre coups de cuillère à peau, a donné à ce disque la couleur que j'avais envie de lui donner. Et ça, des talents pareils, on n'en rencontre pas souvent, et c'est précieux.
C'est quoi la couleur que tu voulais donner à ce disque, Olivia?
Avec quoi la rugosité qu'on entend. Bah, toi, tu sais, toi, ça te surprend pas de me voir arriver avec des sons électro parce que tu sais que ça fait partie de ma culture et que je suis une gosse de Borealis, moi. Et que ça changera pas et que ça fera toujours beaucoup partie de moi. Et que voilà, et que j'ai grandi avec les Penguins Records et que ça fond de quelque chose de toi aussi. Donc, je sais pas pourquoi j'ai digressé à ce point.
mais peut-être entre ton dernier album qui était en 2016 et celui-là, donc il y a quasiment 8 ans, le monde a changé. On parlait de Rosalia tout à l'heure, mais peut-être c'est comme il y a moins de classements, de barrières, de machins, de trucs, même si certaines radios ne l'entendent pas de cette oreille, mais on sent que artistiquement, les gens mélangent voilà, des instruments traditionnels, comme tu l'as toujours fait, avec des beats électro, en allant chercher de la cumbia, du reggaeton, des beats techno, voilà, cette basse saturée là sur le début de la réplique. Est-ce que t'as senti ça, que l'environnement artistique, en tout cas, était un peu plus ouvert à ces mélanges-là?
Pas vraiment, hein. Non. Parce que regarde, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là. On parle beaucoup de Nougaro en ce moment, puisqu'on on arrive à un anniversaire de sa mort. Tu vois bien, il partait dans les tribus, il allait chercher de la matière première partout, il revenait avec quelque chose qui était très ancré dans son époque, et en même temps emprunt de plein de choses, souvent tribales, souvent... c'est quelque chose qui a fait la Villiers aussi quand il part se confronter à des musiciens, un coup en Jamaïque, un coup en Amérique du Sud, un coup avec tous les salsaires new-yorkais. Non, j'ai l'impression que cette liberté-là, elle a toujours existé, que peut-être qu'aujourd'hui on la regarde avec un œil différent, mais non, j'ai l'impression que de toujours il y a eu des artistes qui ont mélangé, qui ont été en recherche. Voilà. Comme une Björk, comme les Coco Rosie à l'époque,
qui reviennent. Ouais. Elles reviennent, les Coco Rosie.
C'est vrai?
Ouais.
Mais non,
il y a un single qui arrive là.
Waouh, alors ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. Voilà, cette expérimentation, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là, mais que peut-être aujourd'hui, on la regarde avec un œil un peu plus bienveillant.
Et toi, tu te l'es toujours autorisé, ces aventures-là, finalement, quand tu remontes le fil de ta discographie?
Ah oui, regarde, J'aime pas l'amour, quand Juliette me donne un morceau et que je mets un passage punk au milieu, façon vraiment à l'ancienne, quoi. Vraiment, vraiment punk de base, j'allais dire. C'est un peu la même chose. Quand j'embête Polydor pour qu'il défende Je traîne des pieds en premier single et que tout le monde me dit mais attends Olivia, tu veux qu'on aille en radio défendre un titre où il y a une boîte à musique, une beatbox comme seul instrument, t'es sérieuse? Ou avec La Femme Chocolat, mais il n'y a même pas de refrain et tu veux qu'on arrive à mettre ça en radio? Bah ils y sont arrivés, hein. À la sueur de leur front et de ma conviction.
Il n'y a peut-être pas de refrain, La Femme Chocolat, mais tout le monde connaît quand même. Hein.
Mais oui, mais tu vois, sur le papier, c'est une anti-recette, quoi. Il y a un truc qui ne marche pas sur le papier.
Mais finalement, voilà, les tubes, on ne sait pas les expliquer, les tubes, jamais, en fait.
Y en a qui sont plus faciles à expliquer que d'autres, tu vois. Quand t'as un couplet-refrain, une structure assez classique, un guitare-basse-batterie, et pas au milieu un chœur suraigu qui vient rencontrer un dulcimer et une guitare électrique très agressive.
Et une basse saturée.
Voilà. Je pense que chez certains, ça s'explique plus facilement que chez moi, les succès.
Tu t'es amusée dans la production de cet album, Olivia ?
Ouais, j'ai sué aussi, hein, parce que j'avais du mal à trouver cette matière qu'il me fallait. Et puis surtout, j'accumulais de la matière. Je partais d'un bout à l'autre de Paris, aller rencontrer les divers producteurs, soumettre mes problématiques et chercher avec eux des solutions, et puis jusqu'à Londres. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, mais je vais y arriver ou pas là ? Et puis bon, bah si, finalement, finalement, au bout d'un moment, le voyage s'arrête et on se dit, ok, je vais faire du tri et probablement que ça sera suffisant pour avoir le disque qui me ressemble.
Mais tu avais, au moment de la sortie du single, tu avais dit dans Le Parisien, Éric Bureau, je crois, ou Marol, en tout cas, journaliste du Parisien, sans doute Éric Bureau, que tu voulais faire un. C'était Emmanuel Marol. Tu lui avais dit en tout cas que tu voulais faire un disque qui ressemble plus à ce que t'écoutais chez toi.
Alors, ce que je disais, c'était que les disques qu'on faisait ressemblaient toujours plus à ce qu'on écoutait à un moment donné de sa vie.
De sa vie, ouais.
C'était ça le fond de ce que je voulais dire. Donc je disais, bah oui, bah évidemment, quand je vis ma période Anna Calvi, Bad for Lashes et je sais pas quoi, forcément, ça se teinte quelque part. Peut-être que c'est tellement subtil qu'on le voit pas, mais moi je le sais, par exemple. Quand j'écoute plus Carole G et Roudéline, ça s'entend, ou même Kendrick, hein. Ça s'entend un peu aussi. Quand je suis partie composer mon disque à Cuba et Los Angeles, je crois aussi que ma musique a pris une couleur très, très Los Angeles à ce moment-là.
Et puis c'est marrant quand même sur le reggaeton qui navigue dans cet album, notamment sur la réplique, mais pas que. C'est beau l'histoire aussi de cette musique qui est en train d'être prise par des femmes, qui était vraiment une musique de mecs, voire limite un peu macho, désagréable. Et aujourd'hui, les femmes à travers la danse, sont en train de se réapproprier le reggaeton et de devenir des plus grosses stars que les mecs. C'est une jolie histoire, ça quand même.
Mais oui, c'est artistique. Une belle histoire, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, c'est un peu dans toutes les musiques qu'on se rend compte que beaucoup de femmes ont été effacées de l'historique. Et il va falloir aller les repêcher parce qu'elles sont très inspirantes.
Tu l'as cité au moins trois fois depuis le début de l'émission. Carole G, on va écouter un petit peu tes inspirations, ta sélection pour
cette playlist.
Une vieillerie qui vieillit pas. Et Carole G avec une certaine Nicki Minaj.
Mais oui.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción,
mala. And then you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet.
Nicki Minaj et Carole G sur la Tsugi Radio. Moi, j'aime bien vous demander de choisir des disques pour cette émission. Comme ça, on entend plein de trucs qu'on n'entend jamais sur Tsugi Radio.
Et
donc,
oui,
c'est quand même hyper cool. Donc, pourquoi tu as choisi ce titre et qu'est-ce qui te plaît chez cette Carole G dont on parle depuis le début de l'émission ?
Sa fraîcheur, sa liberté, son côté punk. Ouais, elle aussi, elle fout des coups de pied dans les codes. Et c'est ça que je trouve fantastique, ce duo. On en parlait hors antenne. Bon, en termes de texte, on n'est pas sur du petit cousin de Proust, hein, définitivement. Mais depuis peu de temps, j'arrive à être en capacité d'écouter une chanson en occultant complètement le texte et en profitant uniquement de la musique. Le fond est intéressant.
Autour la du forme musical,
reste,
ouais.
Reste un peu, enfin, voilà, un peu en surface en termes de texte.
Parce que tu es un peu rétive à une forme de légèreté dans la musique et c'est quelque chose qui se soigne. C'est ça que ça veut dire.
Écoute, la légèreté, non. Mais là, on est vraiment souvent dans ces musiques-là, par exemple. Je sais pas si on peut pas parler de légèreté. Moi, je m'autoriserai jamais à faire une chanson comme ça, purement où ça danse. Il faut qu'il y ait possiblement une lecture du texte qui vienne approfondir justement la musique et réciproquement. Mais aujourd'hui, je suis bien contente.
Mais c'est pas sans valeur, quoi, cette musique-là.
Mais non, loin d'être sans valeur, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Et surtout chez des gens comme moi, qui ont tendance à beaucoup être trop cérébraux. C'est pas mal, de désapprendre comme ça et de se dire, ben tiens, je m'abandonne à quelque chose qui est une nourriture pour, pas pour le cerveau, mais pour le corps, pour plein d'autres choses.
Deuxième choix d'Olivia Ruiz dans cette place des fêtes. Un canto de mi tierra avec mon espagnol absolument abominable.
Oh, ça va, franchement, ça va, ça passe.
C'est gentil. et bon, on en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui te touche tant dans cette musique-là, Olivia Ruiz?
Alors, ce que j'aime, c'est qu'on aille la réveiller. C'est ça qui me plaît dans la démarche souvent de Quantique et que j'aimais dans Quantique, sur l'orchestra. Encore un cadeau de mon frère que de me faire découvrir ce personnage. Ce qui me plaît, c'est les ponts, c'est la transmission, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement de l'ordre du patrimoine et en même temps souvent lié à quelque chose de politique, souvent lié au combat, souvent lié au travail de la terre et forcément à une forme de classe sociale, dans la cumbia surtout. Donc voilà, je me sens un peu chez moi dans cette musique-là, dans ce côté un peu libre, bordélique, où l'imperfection devient reine un peu.
Ouais, et puis il y a quelque chose, effectivement, tu parles de transmission, je parlais du travail sur la mémoire que tu as entamé. Il y a de ça, en fait, aussi, on a besoin de se rappeler l'histoire, notre histoire, nos histoires, notre héritage musical, artistique. C'est ça que ça raconte, hein, la démarche de Quantique et un peu la tienne depuis que tu as ouvert cette porte-là.
Mais oui, ouais, parce que je suis sûre qu'on a tous besoin. Enfin, je pars du principe bêtement que comme moi j'ai besoin énormément de cet ancrage pour me sentir sur mes deux pieds, et l'ancrage il est autant géographique que familial hein, d'ailleurs, qu'a priori ça ferait du bien à tout le monde. Je suis régionaliste, je suis vraiment pour les identités. Je trouve qu'on devrait tous appuyer sur les endroits qui nous différencient les uns des autres. Et voilà, je suis assez fascinée notamment par les langues mortes, par voilà, cet occitan que j'entends chez moi. Tout ça fait partie de la même inspiration et de la même démarche aussi, effectivement, de se dire je sais d'où je viens. Je l'oublie pas parce que ça constitue un ancrage qui me rend plus solide. Et j'oublie rien de mes spécificités parce que c'est ça qui font ma richesse. Que ce soit des origines, que ce soit une sexualité, que ce soit une métamorphose.
Un genre.
Voilà. Et ça, c'est vrai que ça me tient à cœur.
Dernier choix d'Olivia Ruiz pour cette place des fêtes. Quel talent, Jude Lynch, NL Cielo. Vraiment, je vais prendre des cours d'espagnol avec
Jude Lynch. Avec plaisir, avec Antoine, je sais
gros talent, grosse créativité aussi hein, chez Jude Lynch.
Hyper fan. C'est une Rosalia en version punk. Voilà, il n'y a pas de limite. Quoi. Et notamment en termes d'image, quand je pense qu'elle a que 20 ans, je me dis, mais ça va être un régal de suivre cette jeune fille année après année, parce que je sens bien qu'elle est pas au bout de, que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec elle. Et c'est chouette, c'est précieux. Moi, j'ai rarement des coups de cœur en plus. Donc, quand j'en ai un, je peux te dire que je m'en délecte et je vais jusqu'à l'écœurement. Je pousse le nombre d'écoutes jusqu'au par cœur.
Ouais, je crois qu'on a ça en commun.
Oui, bah oui, la demi-mesure, c'est ce qu'on a en commun, absolument. Je dévoile tout à tes auditeurs, t'as vu.
Il est temps d'arrêter cette émission.
Oui, c'est ça, il est au rouge. Voilà, chers auditeurs, ses joues ont rosi.
Olivia Ruiz, il y a pas mal de dates, je vais les annoncer dans quelques instants. Vous êtes en train de préparer tout ça. Mm-hmm. Il y a un petit showcase d'ailleurs samedi à la Fnac des Ternes à Paris. Après, les spectacles, la comédie musicale, etc. Retrouver une préparation de tournée, adapter des chansons pour le live, intégrer les anciens morceaux aux nouveaux, etc. C'est un moment exaltant pour toi aujourd'hui, là, ces semaines. C'est intense, ouais. Mais ouais, c'est aussi exaltant.
Bah absolument, vraiment c'est trop chouette. le seul petit truc, la seule petite ombre à ce tableau-là, c'est la condition physique. C'est vrai que les journées sont remplies, là. Mmh. Et je me dis, mais à un moment donné, il va falloir que j'envoie une heure et demie de concert avec un set que j'ai fait très musclé dans quoi ? Dans exactement 28 jours, n'est-ce pas ? J'ai peur, j'ai très peur. Voilà, je vais le faire et je le ferai bien, mais j'ai très 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 peur. Donc je pense que voilà, là dans pas longtemps, je vais commencer à me faire des sessions d'abdos au milieu de la nuit pour être sûre d'avoir la condition physique parfaite. Mais pour tout le reste, c'est que du bonheur. Travailler la lumière avec le concepteur lumière, ça commence demain. Avec le metteur en scène, commencer à imaginer les décors. Les costumes, non, ça c'est vraiment la partie vraiment très jouissive du process.
Et musicalement, les portes que tu as ouvertes sur l'album, tu vas les enfoncer.
Alors définitivement, ouais, ouais. On prépare une belle intro Pachamama. Bon, on a le temps de changer d'avis, mais oui, j'avoue que j'ai envie de m'amuser. Ouais, ouais. Et puis mes cinq acolytes. Sur scène sont bien chauds aussi, là, à l'idée de repartir. Donc je pense effectivement que ça va être dense avec un E.
Et aussi avec un A.
Et aussi avec un A, bien sûr, on ne pourra pas s'empêcher.
Merci beaucoup, Olivia Ruiz.
Merci mille fois, toujours un plaisir.
Et on se quitte avec la Pachamama, justement.
Ah, au hasard.
Au hasard.
Pas étonné.
La Pachamama está enojada, la abusemos, se replega, desconfía, nos corta las piernas, ella se defiende, nos tira piedras, grita un bastante. Ella nos manda huracanes, ella nos envía caimanes, nos dio su pecho, nos dio su sangre y pedimos más, nunca fue bastante.
Todos diferentes, todos parecidos, la sangre caliente de carne y de hueso. Todos diferentes y todos parecidos. De sangre caliente, de carne y de hueso.
La Pachamama está despertada. Puedes sentirla rugir bajo el asfalto, descuidando campos y mares, malgastando sus recursos naturales. La pancha cancha y se apaga. Al final la factura será muy cara. La Pachamama no te dará un descuento. Nos quema con despacio y tiempo.
Todos diferentes, todos parecidos. La sangre caliente de carne y de hueso. Todos diferentes y todos parecidos. De sangre caliente de carne y de hueso.
Olivia Ruiz à la Fnac des Ternes, ce sera samedi à Paris, et puis il y aura la cartonnerie de Reims le 4 avril, le Garrick, le SIC, Saint-Malo, Saint-Lô, Saint-Quentin, le Plan, Aris Orangy, Sannemasse, Lons-le-Saunier, le Printemps de Bourges, Hard Rock à Saint-Brieuc, Europa Vox, la Nuit de l'Erdre, les Vieilles Charrues, et en octobre, la Fiesta des Suds à Marseille. Vous écoutez Tsugi Radio, on va pas aller à Marseille là, on va plutôt aller à Montréal.
Tsugi. Tsugi Radio. Place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
et de Paris à Montréal, il n'y a qu'un pas, enfin bon, 7 heures d'avion on va dire. Salut Angèle Châtelier.
Salut Antoine, bonjour à tous.
Tu reviens donc du festival Montréal en lumière qu'on aime beaucoup ici à la Tsugi Radio, un festival qui se tient sur une dizaine de jours, qui mélange musique et gastronomie, un festival familial pour rendre accessible ces deux cultures à toutes et tous.
La façon qu'on voyait l'hiver à Montréal il y a 25 ans et aujourd'hui, c'est complètement différent.
Oui, l'hiver à Montréal, il vaut mieux le vivre que le subir, m'a dit Jacques Primo, le directeur du festival. C'est un peu avec ce mantra qu'est né Montréal en lumière. Il y a 25 ans, faire sortir de terre et de chez eux les Montréalais et les touristes pour leur faire voir, même s'il fait moins 11 degrés, comme ça a été le cas la semaine dernière quand j'y étais, des concerts et découvrir de grands et grandes chefs sur l'esplanade tranquille dans le quartier des spectacles à Montréal. La patinoire s'anime face à des DJ sets comme des projections lumineuses sur les gratte-ciels de la Place des Arts. Le quartier gourmand mange de jolies choses et on passe de salle de concert en salle de concert pour entendre cette année aussi bien Half Moon Run que Lisa Leblanc.
Lisa Leblanc, célèbre artiste québécoise que l'on entend ici en symphonique, un concert que tu as vu, Angèle, dans la salle Wilfrid Pelletier. Alors Angèle, d'habitude, plutôt la musique de Lisa Leblanc, et ben en fait, c'est ça.
Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Ce que tu pourrais faire demain?
Lisa Leblanc a voulu se challenger un peu, changer les codes et s'entourer ce soir-là effectivement de 48 musiciens de l'Orchestre Symphonique de Laval.
Imaginer aussi ben, des chansons. Il y a une tune qui s'appelle « Je suis pas un cowboy » qui est comme plus genre rock country. «
Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça prétendre que je suis... »
Elle est très Sinatra. Elle est vraiment comme années 40-50. Il y a comme plein de trucs qu'on a pu vraiment explorer.
Toi, est-ce que tu penses que ça va, cette expérience-là va potentiellement changer des choses dans ta manière de composer, de penser ta musique pour les prochains morceaux que tu vas pouvoir faire?
Ben là, c'est clair qu'après ça, tu retournes seul, puis t'es comme « Ouais! » C'est bon, ben OK.
Oui, c'est clair, ça ouvre beaucoup de portes. Puis aussi, tu sais, juste toute la recherche qu'on a faite aussi, juste tout ça a été vraiment une partie de toute la création qui a été vraiment intéressante. Fait que là, c'est sûr que ça finit par influencer d'autres affaires. Puis j'aime beaucoup quand on fait des ponts en différentes communautés. C'est dans les choses qui me rendent le plus heureux, c'est voir des rencontres. Puis là, tout d'un coup, deux personnes de deux gangs différentes commencent à se parler. J'ai, mettons, mon public qui vient puis qui a, tu sais, ben du monde qui sont jamais venus voir un orchestre. C'est toute la force que c'est d'aller voir 63 musiciens jouer.
Alors, Angèle Châtelier, voilà, en direct de Montréal avec Lisa Leblanc à l'instant. Il y avait aussi Kid Koala à l'affiche de Montréal en lumière, des marionnettes, les rockers Half Moon Run. Et depuis 25 ans, ce festival, c'est également de la gastronomie.
Et oui, parce que les chefs sont aussi des artistes.
Je trouve que les chefs, en fait, ils performent chaque soir. Leur scène, c'est la cuisine, en fait. Et chaque soirée est différente. C'est un moment unique, comme un concert de musique. Leurs notes de musique, ce sont les ingrédients.
Je vais vous montrer comment on déguste et on sent un spiritueux.
Donc là, on nous passe la bouteille du gin qu'on est en train de boire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette bouteille?
Déjà, il y a une grosse étiquette Origine Québec. Et après, c'est un grand dessin avec quelqu'un qui se balade dans la forêt.
C'est vrai que ça a un goût vraiment de forêt. C'est, ouais, ça fait... ça.
C'est pas comme si j'avais déjà goûté de la sève de sapin, mais, mais ça fait un peu ça.
De grands chefs viennent et sont venus me rappeler Julie Martel, la programmatrice gastronomique du festival. Ici, donc, vous avez entendu aussi bien une dégustation de gin, il y avait aussi de la vodka.
Ça te plaît, ça, la dégustation de
oui,
gin
bah
et de
voilà.
Vodka?
Non, mais à Montréal, on sait bien vivre et on sait bien manger.
Ce qu'on veut aussi, c'est dresser un portrait de la gastronomie montréalaise. Donc, oui, à Montréal, il y a de la poutine, il y a des smoked meat, il y a des bagels, mais il y a autre chose aussi. On n'a pas le poids de la tradition sur les épaules. Tout est permis. Nos saisons sont très... typique au Québec, on en a 4. Donc, c'est sûr que l'hiver, on va cuisiner beaucoup avec des produits qui ont été préservés des belles saisons, des bleuets congelés, des petits fruits congelés. L'hiver, on est beaucoup sur la viande, les fruits de mer, les fruits conservés. En avril commence la saison des asperges. Alors là, c'est une célébration. Tous les chefs vont mettre de l'asperge sur leur menu, par exemple.
C'est aussi un patrimoine à protéger, hein, surtout à l'heure du réchauffement climatique. C'était d'ailleurs l'un des thèmes cette année à Montréal en Lumière, la nourriture éco-responsable.
Enfin, Angèle, samedi, tu étais à la Nuit Blanche, oui, au lieu de fête et de culture pour toutes celles et pour tous ceux qui sont à Montréal.
Oui, c'est une célébration créée sur celle de Paris, hein, de grands lieux qui ouvrent leurs portes comme Radio-Canada, l'ONF, l'Office National du Film du Canada, comme des troupes de théâtre. Il y avait aussi une soirée Moonshine, vous y avez peut-être été à Paris, des soirées clubs qui viennent de Montréal où l'on danse jusqu'au petit matin.
Une manière de vivre la fête comme on sait la faire à Montréal.
On fait la fête de façon, je dirais, assez unique. On réussit à faire la fête avec un minimum de problèmes de sécurité. Et quand on se compare au reste des États-Unis, au reste de l'Amérique du Nord, je pense qu'on est un peuple quand même assez festif, mais dans une forme de respect. Et c'est ce qu'on souhaite.
Et c'est vrai
qu'on souhaite.
Ouais, puisque c'est vrai qu'on sait la faire, la fête, en toute bienveillance à Montréal. Merci beaucoup, Angèle Châtelier, pour ce report du Festival Montréal en Lumière. Et merci beaucoup, Angèle Châtelier, parce que depuis de nombreux mois, tu viens avec ta revue de presse musicale. On se croise en festival pour la Tsugi Radio. Et puis là, tu vas voguer vers d'autres aventures professionnelles. Mais tu auras toujours ta place ici, à ce micro ou dans notre studio pour venir boire une bière avec nous. Merci beaucoup, Angèle. Et on se retrouve très très vite, de toute façon, devant les concerts, parce que c'est
évidemment
ça qui nous plaît le plus.
Bien sûr, c'est là où on se retrouve tous.
Allez, dans quelques minutes, c'est Miralo au platine de la Tsugi Radio pour son rendez-vous mensuel. Luc Leroy, Mathis, Philippe, Rémi, Pierre, c'est l'équipe de Tsugi Radio. Moi, je vous retrouve demain à 18h pour débattre de quelques-unes des dernières sorties d'albums avec les journalistes du Bar Pro. Mais je vous laisse avec une nouvelle preuve éclatante du talent de nos musiciens hexagonaux. Le saxophoniste Laurent Barden sortira à la fin du mois Eden Beach Club, nouvel album avec son groupe Tigre d'eau douce. Ils seront au Trianon le 14 mai. Premier extrait de ce disque, Meilleur, avec la voix d'une certaine Jeanne Adède. Allez, bisous.
S'évapore et demain à l'aurore, il n'y aura plus sur ma peau.